France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'enlèvement du bébé Lindbergh. En mars 1932, dans un manoir du New Jersey, aux États-Unis, un bébé disparaît, enlevé. Près de son berceau vide, une demande de rançon. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans les médias, car cet enfant n'est pas n'importe quel enfant. C'est le fils de l'aviateur Charles Lindbergh, l'un des hommes les plus adulés du monde. L'Amérique est sous le choc, on vient de frapper son héros. Alors le pays entier se met en tête de retrouver l'enfant et la police doit composer avec l'implication d'intermédiaires sous la supervision du célèbre père de la victime. Mais au terme d'un processus rocambolesque de paiement de la rançon, l'enfant est retrouvé mort. Qui a fait le coup? Qui a osé? Un immigré allemand est arrêté, jugé, condamné, exécuté. Les preuves qui le désignent sont solides, mais sont-elles suffisantes? Certains le pensent, il reste des mystères à éclaircir dans cette affaire. Notre invité aujourd'hui, Romain Huret, historien, spécialiste des États-Unis au XXe siècle, directeur d'études à l'EHE2S. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire Margot Bouge, rédaction chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donante, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Mardi 1er mars 1932, un vent glacial souffle sur la colline de Sourland, dans le New Jersey. La nuit est tombée. Assis dans le salon d'une immense maison blanche isolée au milieu des bois, les propriétaires du lieu tendent leurs mains vers la cheminée. « Comment va le bébé ?» demande le colonel Lindbergh. Il se trouve que le nourrisson du couple, Charles Jr., 20 mois, a attrapé un vilain rhume. « Il va déjà mieux, » sourit Madame Lindbergh. Elle l'a mis au lit pour la nuit, après l'avoir habillé d'une chemise de flanelle et d'un pyjama de laine. « Il dort comme un ange », assure Betty Go, la nurse chargée de l'enfant. « Il est 20h. » À 21h30, la conversation des Lindbergh est interrompue par un craquement venant de l'extérieur. Sans doute une branche brisée par la tempête. Décidément, ce vent. Madame Lindbergh éternue. Voilà qu'elle est en train de tomber malade à son tour. Alors elle décide d'aller se coucher tôt. Dans son état, une grossesse avancée, oui, elle attend un deuxième enfant, c'est plus raisonnable. Son mari, lui, s'enferme dans la bibliothèque, il a encore du travail. Scène de la vie ordinaire. À 22h, la nurse entre dans la chambre du bébé, noyé dans la pénombre. Il faut vérifier que le petit ne s'est pas découvert. Tiens, la fenêtre qui a le défaut de ne pas se verrouiller est entrouverte. Bon, après avoir bloqué l'ouverture, Betty Go s'avance vers le berceau. Mais ses doigts ne rencontrent que la couverture. Le bébé n'est pas là. C'est sans doute madame qui est venue chercher son fils. Betty va donc toquer à la porte de sa patronne, comme on l'entend dans ce film de 1976.
Mrs. Lindbergh?
Yes?
Mrs. Lindbergh, do you have the baby?
Why, no, I don't have him.
Why? Where's the colonel? Maybe he has him.
Downstairs in the library.
Betty Go dévale les escaliers. « Colonel, avez-vous vu le bébé ?» Au ton affolé de la nurse, Lindbergh comprend qu'il se passe quelque chose de grave. Alors il se précipite dans la chambre de l'enfant. Fébrilement, il inspecte les recoins de la pièce. Il aperçoit des traces de boue sur le sol. Et une enveloppe, posée en évidence sur le radiateur. Le colonel Lindbergh arrête la main de sa femme qui s'apprête à saisir le courrier. « Ne touche à rien. Quelqu'un est entré dans cette pièce. » Il ne faut pas effacer les traces. Il téléphone à la police, qui arrive 20 minutes plus tard. Les enquêteurs inspectent la chambre du bébé et ils sont formels. Quelqu'un est entré par la fenêtre. Il y a des traces de boue sur le rebord, celles que Lindbergh a vues d'ailleurs. Mais aucune empreinte de doigt ni de pied. Il est probable que le malfaiteur portait des gants et qu'il a recouvert ses chaussures. Mais comment a-t-il pu accéder au premier étage ? Dans le jardin, les enquêteurs localisent deux trous dans l'herbe sous la fenêtre du bébé. Pas de doute, ce sont les traces d'une échelle qu'on a adossée contre la façade. Et précisément, une échelle démontable de confection artisanale qui ne tarde pas à être découverte dans les fourrés. Un barreau était brisé. Cela expliquerait le craquement que j'ai entendu, murmure Lindbergh. Il échange avec sa femme un regard angoissé. Leur bébé a été enlevé et emporté dans la nuit. Tous les yeux se tournent vers l'enveloppe, sur laquelle n'est relevée aucune empreinte digitale. Le chef de la police de New Jersey, Norman Schwarzkopf, ouvre le courrier.
Monsieur Lindbergh, préparez 50 000 dollars, 25 000 en billets de 20 dollars, 15 000 en billets de 10 dollars et 10 000 en billets de 5 dollars. Nous vous ferons savoir d'ici quelques jours où remettre l'argent. Nous vous recommandons de ne faire aucune déclaration publique et de ne pas avertir la police. L'enfant est en bonne santé. Les lettres que vous recevrez de nous portent la signature ci-dessous.
La missive se conclut par deux cercles entrelacés, percés de trois trous, la marque des ravisseurs. On dirait que l'individu qui a écrit cette note a l'allemand pour langue maternelle, observe l'enquêteur en chef. De fait, certaines orthographes et tournures sont typiquement germaniques. Aussitôt, Charles Lindbergh l'annonce, il paiera la rançon. Mais il ne faut pas ébruiter l'enlèvement, il ne veut pas risquer la vie de son fils. Sauf que des policiers ont déjà averti la presse et qu'une horde de journalistes commence à s'agglutiner sur le gazon des Lindbergh. Pensez donc, l'aviateur est l'une des personnalités les plus adulées des États-Unis et du monde depuis un fameux exploit réalisé 5 ans plus tôt. En 1927, Lindbergh est encore un quasi inconnu. Mais cet aviateur de 24 ans, fils d'un immigré suédois, décide de tenter un pari fou. Être le premier homme à traverser l'Atlantique en avion et sans escale. Le défi est évidemment périlleux. Deux pilotes français chevronnés viennent de disparaître en mer en tentant justement de le relever, ce défi. Le 21 mai 1927, Lindbergh décolle de Long Island. Pour stocker le plus d'essence possible dans son monomoteur, il a fait le choix, risqué, de restreindre sa visibilité et de ne pas prendre de parachute. Au terme de 33h30 de vol, à lutter contre la fatigue, le froid, la tempête, la désorientation, il atterrit à Paris devant une foule survoltée. Et la nouvelle fait le tour de la presse internationale. On vante l'exploit de Lindbergh, mais aussi sa modestie et sa beauté. Après une tournée triomphale en Europe, le grand blond aux yeux océans est reçu par 500 000 personnes en délire, dans un New York pavoisé. On se comportait comme si Lindbergh avait marché sur l'eau et pas volé au-dessus, écrit joliment l'un de ses biographes. Bientôt, Lindbergh, qui est fait colonel, ploie sous les décorations, les contrats, les lettres de femmes. Et les journalistes n'ont qu'une envie, continuer d'écrire la légende de ce nouveau héros. Quand il démarre une idylle avec Anne Morrow, fille du riche ambassadeur des États-Unis au Mexique, la presse les suit partout. Il faut dire que ce mariage, conclu en 1929, a tout du conte de fées moderne. Anne, devenue Lindbergh, se passionne pour l'aviation et ne tarde pas à voler en duo avec son mari, pisté par les caméras des actualités cinématographiques Top Glamour.
Les Lindbergh sont maintenant des idoles en Orient. Les voici qui atterrissent près de Tokyo. Et la foule est visiblement ravie de les voir. Une fois l'avion sur l'eau, ils se dirigent droit vers la côte et une réception enthousiaste les attend. Dès que tout est sécurisé à bord, Lindy descend et il est heureux de toucher le but. Anne, assise dans le cockpit arrière, se prépare à descendre aussi. C'est une passagère aguerrie qui ne semble pas du tout souffrir du voyage. Tout le monde est impatient de les saluer et les backers de hostesse exécutent 3 chants vibrants. Certaines personnes seraient épuisées après avoir traversé l'océan Pacifique, mais pas les Lindbergh. Non, monsieur, comme des touristes ordinaires, ils sont impatients de découvrir les lieux.
Mais les Lindbergh ne goûtent guère cette célébrité démesurée. D'ailleurs, en essayant de préserver leur intimité, ils partagent la même gaucherie face aux journalistes. De toute façon, c'est peine perdue. Quand leur fils, Charles Jr., né en 1930, les médias assiègent leur résidence pour tenter d'apercevoir le nourrisson. Alors, pour échapper aux curieux, les Lindbergh font construire une maison isolée sur une colline du New Jersey. Là, ils seront à l'abri du monde et pourront élever leurs enfants en paix. Tu parles. Le 2 mars 1932. Une nouvelle fait la une de toute la presse nationale et internationale. le bébé Lindbergh a été kidnappé. Le choc est immense. Voilà 2 ans que les États-Unis sont en proie à une vague d'enlèvements contre rançon. La faute au crime organisé, qui ne cesse de se développer sous la prohibition. Après le trafic d'alcool, le kidnapping est considéré comme une activité lucrative dans une Amérique très appauvrie par la Grande Dépression. Mais qui pouvait imaginer que la personnalité la plus célèbre du pays puisse être aussi frappée ? L'affaire devient donc celle de tous. Du président Hoover au plus insignifiant des détectives amateurs, ils sont nombreux à proposer leur aide, leur soutien, leur argent. Même Al Capone, depuis sa prison, propose de mettre la perruque sur le coup. Et une prime de 10 000 dollars pour celui qui rendra le bébé à ses parents. Dans cette agitation générale, la police du New Jersey doit garder le cap. Installer des barrages policiers dans tout l'État, fouiller les environs de la maison Lindbergh et interroger les domestiques. Car les enquêteurs soupçonnent que les ravisseurs du bébé Lindbergh aient pu être aiguillés par quelqu'un qui connaissait les lieux. Comment expliquer en effet que les kidnappeurs aient pu et su où se trouvait la chambre de l'enfant ? Ont-ils été informés que la fenêtre avait un défaut ? Rapidement, la police tourne son regard vers Betty Gow. Après tout, elle a pu nouer un partenariat criminel avec son amant, un marin norvégien. Les policiers ont de l'imagination, jusqu'à conduire à l'erreur judiciaire, parfois. D'ailleurs, l'amant a un alibi solide. Et les Lindbergh se portent garants de l'honnêteté de leur personnel. Non, le couple n'a qu'une obsession, payer la rançon. Des affaires récentes de kidnapping l'ont prouvé. Paiement rime souvent avec libération. Mais les ravisseurs ne se manifestent pas. Alors, monsieur et madame Lindbergh publient un appel dans la presse. Bien content de la trouver cette fois.
Nous désirons entrer en contact avec les ravisseurs de notre enfant. Notre seul désir est qu'il nous soit rendu au plus vite. Et nous sommes certains que les ravisseurs, tenant compte de ce désir, auront confiance dans les promesses que nous serions amenés à formuler en rapport avec son retour. Nous demandons aux ravisseurs de choisir un délégué dans notre entourage. Celui-ci les rencontrera à l'heure et à l'endroit qui leur conviendront. Si cette proposition est acceptée, nous promettons de ne rien divulguer des accords qui pourraient être conclus entre leur délégué et le nôtre. Et nous nous engageons par la suite à ne rien entreprendre contre les personnes qui nous restitueront l'enfant.
Les Lindbergh vont être entendus. Les ravisseurs ne tardent pas à désigner un émissaire, un certain Dr. Condon. Curieuse personnalité que ce Condon. À 72 ans, ce professeur new-yorkais, retraité, est très investi dans la vie associative de son quartier, le Bronx. Il donne tantôt des conférences philosophico-religieuses, tantôt coach des équipes de baseball. Et comme beaucoup d'Américains, il est bouleversé par l'enlèvement du bébé Lindbergh. Au point de prendre une initiative étonnante. Publié dans le Bronx Homes News, son journal fétiche, une annonce dans laquelle il offre ses services d'intermédiaire entre les ravisseurs et la famille Lindbergh. Depuis, on ricane sur son passage. Qui peut croire que les kidnappeurs soient lecteurs de cette feuille de chou locale ? Mais le 9 mars, 8 jours après leur rapte, le docteur Condon trouve un courrier dans sa boîte aux lettres. Aussitôt, il décroche son téléphone. Au colonel Lindbergh, qu'il finit par avoir en ligne, il déclare « On m'a remis un courrier qui vous est adressé. » Et lentement, il lit.
Monsieur Lindbergh, Monsieur Condon est accepté comme intermédiaire. Vous pouvez lui remettre les 50 000 dollars que vous aurez placés dans un paquet. Nous vous mettons en garde contre toute tentative de nous tendre un piège. Quand nous aurons l'argent en main, nous vous dirons où se trouve votre garçon.
Encore une arnaque, se dit Charles Lindbergh. Ça fait plusieurs jours qu'il est assailli par de fausses demandes de rançon. Alors que l'aviateur s'apprête à raccrocher, il demande tout de même « La lettre est-elle signée ?» Oui, répond Condon, de 2 cercles entrelacés percés de 3 trous. Alors le cœur de Lindbergh bondit. Enfin, les kidnappeurs se manifestent. C'est eux, c'est sûr, leur signature est l'un des seuls éléments de l'enquête à ne pas avoir filtré dans la presse. Alors aussitôt, il invite Condon à le rejoindre. Là, le docteur lui montre la lettre qu'il a reçue. Elle ressemble beaucoup à la missive laissée la nuit du rapt. Même écriture, même coquilles et tournure allemande. Lindbergh observe longuement le docteur Condon. Pourrait-il être de mèche avec les ravisseurs ? Non. L'aviateur balaye cette hypothèse. Le vieux docteur a le regard franc. L'aviateur s'en remettra à lui pour retrouver son fils. « 2 avril 1932, nuit noire sur le Bronx. Le docteur Condon pénètre dans le cimetière Saint-Raymond, les mains crispées sur un paquet. Il a enfin obtenu un rendez-vous pour remettre la rançon. Voici plusieurs semaines qu'il multiplie les tractations avec les ravisseurs proclamés, en collaboration étroite avec le colonel Lindbergh. Condon a reçu plusieurs courriers auxquels il a dû répondre par petites annonces dans les journaux. Un véritable jeu de pistes. Et s'il n'a pas obtenu de voir le bébé, il a reçu la preuve qu'il interagit bien avec ses kidnappeurs. Le pyjama que portait le petit la nuit du rapt. Et là, comme ça, il n'y a plus de doute. Comme prévu, Condon progresse le long des tombes. Soudain, une voix à l'accent allemand prononcé l'interpelle. « Hé, docteur !» Bientôt, la silhouette d'un homme mince, chapeau rabattu sur les yeux, se trouve devant lui. « Avez-vous les 50 000 dollars ?» Condon acquiesce. « Mais où est le bébé ?» L'inconnu lui tend une note manuscrite. La localisation de l'enfant est inscrite sur ce papier qu'il ne lui remettra qu'en contrepartie de l'argent. Rançon et enveloppe sont alors échangées. Tandis que l'inconnu disparaît dans la nuit avec son butin, le docteur Condon se précipite à l'entrée du cimetière. Là, l'attend le colonel Lindbergh qui lui a servi de chauffeur. L'aviateur est seul. Il a refusé net que la police tende un piège aux ravisseurs. Cela pourrait mettre la vie de son fils en danger. Fiévreusement, Lindbergh parcourt le message que lui remet Condon.
Le garçon est sur le bateau Nelly. Ce petit bateau de 29 pieds se trouve entre Horseneck Beach et Gayhead, près d'Elizabeth Island. Deux personnes se trouvent à bord, elles sont innocentes.
Lindbergh sourit. Cela fait 33 jours que son bébé a été enlevé et enfin, des retrouvailles se dessinent. Le 3 avril, il grimpe dans son avion au petit matin, prêt pour le vol qu'il envisage désormais comme le plus important de sa vie. Celui qui doit le mener à son fils. Il survole Détroit de Wynard, mais aucune trace d'un bateau nommé Nelly. Au terme de plusieurs jours de recherche éperdue, l'aviateur doit se rendre à l'évidence, il a été berné, le Nelly n'existe pas. L'homme au cercle entrelacé s'est contenté de prendre l'argent, il ne rendra pas l'enfant. À partir de là, le corbeau ne se manifestera plus, en dépit des tentatives du docteur Condon de le relancer, au travers de petites annonces dans les journaux. Le jeu est cruel, horrible pour les Lindbergh. Où est le bébé ?
I've lived a life, but nothing I've gained. Each day I'm full of sorrow and pain. No one seems to care enough for me to give me a word of sympathy. Oh me, oh my, wonder what will the end be. Oh me, oh my, wonder what will become of poor me. No father to guide me, no mother to care, must bear my troubles all alone. Not even a brother to help me share this burden I must bear alone. Oh me, oh my, wonder what will my end be. Oh me, oh my, wonder what will become of poor me. Days gone by, my heart with pain. I'm too weak to stand and too strong to cry, but I'm forgetting it all in vain. Oh, me, oh, my, wonder what will my end be. Oh, me, oh, my, wonder what will become of poor me. I've traveled and wandered almost everywhere to get a little joy from life. Still I've gained nothing but wars and despair, still struggling in this world of strife. Oh, me, oh, my, wonder what will my end be. Oh, me, oh, my, wonder what will become of poor me.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le rapt de l'enfant Lindbergh.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
12 mai 1932, un camion sillonne le Mont Rose, dans le New Jersey. À son bord, deux chauffeurs-livreurs. L'un d'eux, William Allen, se gare, une envie pressante, escale technique. Il s'isole dans un sous-bois et pousse un cri d'effroi. « Hé, j'ai trouvé un bébé mort !» Il demande à son collègue de venir constater, il veut un second témoin, et qu'il soit blanc. Car Allen est noir, mais il sait qu'il vaut mieux assurer ses arrières pour ne pas être accusé d'un crime qu'il n'aurait pas commis. Alors, les deux compères entourent le cadavre du nourrisson en voie de décomposition, en partie dissimulé sous un tapis de feuilles. Et ils arrivent à la même conclusion. Ce bébé, au reste de cheveux blonds et bouclés, est sans doute le bébé Lindbergh. Il n'est pas difficile de faire le rapprochement. La photo du garçonnet disparu depuis 2 mois a circulé partout. Et surtout, on n'est qu'à 7 km de la propriété où il a été enlevé. Bref, la police est alertée et les journalistes débarquent pour enregistrer le témoignage de cet homme qui a découvert le bébé.
Ok, je suis le gars qui a trouvé le bébé Lindbergh. Je suppose que c'était lui, sinon c'était le bébé de quelqu'un d'autre. Je suis allé à la police pour les alerter. Je les ai amenés. Je leur ai montré l'endroit et je suis retourné à mon travail.
Le colonel Lindbergh et la nurse Betty Gao sont convoqués à la morgue pour identifier le petit corps. Madame Lindbergh est laissée à l'écart. Elle est prête à accoucher et on veut lui éviter un choc trop brutal. Le mot est faible. « C'est bien mon fils », déclare le colonel Lindbergh. « Aucun doute possible. » Le petit cadavre a 2 orteils droits qui se chevauchent, une particularité au bébé Lindbergh. La nurse, elle, reconnaît la chemise de flanelle qu'elle a elle-même cousue pour le garçonnet. Alors quand et comment est mort le bébé Lindbergh? Rapidement, le légiste rend son rapport. L'enfant est décédé d'une fracture du crâne il y a au moins 2 mois, probablement la nuit même de son enlèvement. Les policiers repensent aux barreaux brisés de l'échelle. Le bébé a-t-il succombé à une chute accidentelle en étant descendu par la fenêtre? Ou a-t-il été tué volontairement? Quoi qu'il en soit, il est clair que ceux qui ont demandé la rançon n'ont jamais eu l'intention de rendre le bébé en retour. Ils le savaient déjà mort. L'affaire est abominable. On imagine la souffrance indicible des parents et les médias, eux, réclament des coupables.
Le plus atroce crime de l'histoire de l'Amérique a été résolu. Mais l'issue en est tragique. C'est ici que le petit corps du fils du couple préféré des Américains a été retrouvé mort. Ce crime ne peut pas rester impuni. Il revient à l'Amérique de retrouver les meurtriers, sans quoi l'Amérique sera couverte de honte pour toujours.
Jusqu'ici, la police avait laissé le colonel Lindbergh superviser les négociations avec les kidnappeurs de son bébé, de peur, probablement, que le héros de l'Amérique reproche publiquement aux autorités leur implication, s'il devait y avoir une issue funeste. Avec la découverte du cadavre de l'enfant, les enquêteurs ont désormais le champ libre pour retrouver les auteurs du crime. Et ils ont une piste en or, l'argent de la rançon. Une partie du tribut a été payé en gold certificates, bons du trésor d'usage courant, échangeables à la banque, dont les policiers ont relevé les numéros de série. Il s'agit donc de traquer ces billets. Alors, liste des numéros de série en poche. Les enquêteurs font le tour des banques. Si vous voyez passer un de ces billets, il faut nous avertir, commente-t-il aux employés de banque. Bingo. Les policiers sont alertés que des billets circulent dans le Bronx et que c'est toujours le même inconnu, aux joues creusées, yeux bleus et accent allemand qui les dilapide. Les policiers en ont donc désormais la conviction. Il n'y a qu'un individu derrière l'enlèvement du bébé Lindbergh. L'étau se resserre. Mais les numéros de série ne tardent pas à filtrer dans la presse. Et à partir de là, il semble que le détenteur des billets renonce à les utiliser. C'est sûr, il se sait traqué. Bien. Comment l'arrêter maintenant? 2 ans passent. 15 septembre 1934, le gérant d'une station-service du Bronx, Walter Lyle, assure son service. Une Dodge bleu foncé se gare à côté de lui. Le plein, s'il vous plaît, demande un homme à l'accent allemand. Au moment de payer, le client tend un bon du trésor au pompiste, qui fronce les sourcils. « Je ne sais pas si ce type de monnaie est encore valable, dit-il. Il faut dire que ces bons sont en train d'être retirés du marché. » Alors le client lui répond sèchement « Bien sûr qu'ils sont toujours valables. » Avant de démarrer à toute allure, le pompiste note la plaque d'immatriculation, comme on l'entend ici dans la tribune de l'Histoire, sur France Inter.
Sur les billets de banque maintenant, toi ?
Je note le numéro de la voiture. 4U1341.
Pourquoi ?
Parce que je me méfie de ce client.
Pourquoi donc ?
Il avait un regard curieux.
Curieux ?
Ouais, son regard sautait. Et puis, je crois bien que ses billets n'ont plus cours.
Tu le sauras par la banque en allant porter samedi la recette de la semaine.
Donc, il va à la banque, où le billet est examiné. « C'est bien un billet de la rançon Lindbergh !» s'exclame le banquier, qui alerte aussitôt la police. Les enquêteurs exultent. Grâce à la plaque d'immatriculation, ils identifient le propriétaire de la voiture, un certain Bruno Richard Hauptmann. Qui est-il ? Eh bien, c'est un Allemand de 35 ans qui a été incarcéré dans son pays d'origine pour cambriolage et braquage. Venu clandestinement aux États-Unis il y a 11 ans, après s'être évadé de prison, il a épousé une compatriote, eut un fils, a gagné sa vie comme menuisier. Mais en 1931, avec la crise économique, il a perdu son travail. Pour les policiers, il a le profil du suspect dans cette affaire d'enlèvement. Il faut l'interpeller. 19 septembre 1935. Les enquêteurs planquent devant une maison du Bronx. Quand Hauptmann sort du garage, au volant de sa Dodge, la police lui passe les menottes sous les cris de protestation de sa femme. L'homme, yeux clairs et figure étroite, garde le silence. Tandis qu'il est amené au poste, on perquisitionne son domicile. Et là, la pêche est fructueuse. Les enquêteurs découvrent le croquis d'une échelle démontable qui ressemble à celle retrouvée sur la scène du rapt. On trouve aussi chez Hauptmann une curieuse inscription. Les coordonnées de celui qui a servi d'intermédiaire au ravisseur, le docteur Condon. Surtout, les policiers mettent au jour 13 700 $ dissimulés sous une planche de l'établi du suspect. Cette montagne de bons du trésor appartient bien à la rançon Lindbergh. Et dans la presse, c'est l'explosion de joie. Enfin, l'arrestation d'un suspect pour le meurtre du bébé Lindy. Un suspect étranger qui plus est. Car qui d'autre qu'un immigré demande des journaux pour commettre un tel crime contre l'Amérique. Face aux policiers qui le cuisinent, Hauptmann nie. Il n'a rien à voir avec ce crime. Alors comment expliquer qu'on ait retrouvé l'argent de la rançon chez lui ? Hauptmann soutient que ces liasses lui ont été confiées par l'un de ses amis, Isidor Fisch, reparti depuis en Allemagne. Lui, Hauptmann, s'est contenté de les dépenser. Bien. Et les coordonnées du négociateur de la rançon inscrit sur son mur. J'ai dû voir passer l'adresse de ce Condon dans les journaux et je l'ai noté par réflexe, répond Hauptmann. Non, assure-t-il, il n'a pas fabriqué d'échelle du rapt. Et il le répète, il est innocent. Mais il part en prison. Et l'Amérique attend son procès.
Le drame se joue à Flemington, New Jersey. La foule assiège le palais de justice dans l'espoir de voir Hopman se battre pour sa vie. Mais la ville d'ordinaire si paisible est envahie par des journalistes, des photographes et des caméramens venus du monde entier.
2 janvier 1935, le procès du siècle, comme l'ont renommé les médias, qui en trouvent plusieurs par cercle d'ailleurs, mais bon. Ce procès s'ouvre dans la cohue. On veut apercevoir les célèbres parents endeuillés, les Lindbergh. Mais aussi l'accusé, qui, chacun le sait, pourrait être condamné à la chaise électrique s'il est reconnu coupable du rapt et du meurtre du petit Charles J.R. Lindbergh. Pour assurer sa défense, Hopman peut compter sur une star du barreau. Edward Ray, dont les honoraires sont payés par un grand quotidien, oui, en échange de déclarations exclusives. L'avocat le sait, sa tâche s'annonce ardue. Mais le faisceau d'indices incriminant son client est solide, certes, mais il n'y a aucune preuve incontestable. On n'a trouvé aucune empreinte digitale attestant de la présence d'Hopman sur la scène du crime. D'où la stratégie de l'avocat. Démontrer que son client n'est pas le seul à pouvoir être soupçonné. Alors il charge tout le monde. Isidore Fish, l'ami d'Hopman, qui aurait laissé chez lui l'argent de la rançon. Sauf que Fish est mort de la tuberculose 1 an plus tôt. Alors Edward Reilly fait planer le doute sur les domestiques du couple Lindbergh. La nurse, Betty Go, pourrait tout à fait avoir remis le bébé à un complice. Et ce complice ne pourrait-il pas être le docteur Condon ? Il est tout de même curieux que ce bon samaritain ait surgi de manière providentielle comme ça quand il était question de payer la rançon. Ne pourrait-il pas avoir écrit lui-même les lettres qu'il a reçues ? Après tout, il a agi majoritairement sans témoin. Bref, une défense de rupture, genre, et si c'était pas le bon coupable ? Pur non-sens, tonne le colonel Lindbergh. Appelé à la barre, le père de la victime l'assure, c'est Hopman qui a fait le coup. Il en est certain. C'est bien la voix qu'il a entendue crier « Hey, docteur !» le soir de la remise de la rançon. Qui oserait remettre en cause la parole du héros de l'Amérique ? Vient le tour des experts qui corroborent tous la thèse de l'accusation. Un spécialiste du bois affirme que Hopman, menuisier de son état, a fabriqué l'échelle du rapt, et avec le même bois qu'il a utilisé pour refaire le plancher de son grenier. Cette expertise, évidemment, fait forte impression. Tout comme celle de ces 7 graphologues qui se rejoignent pour dire que c'est bien Hopman qui est l'auteur des lettres du ravisseur. Voici leurs paroles, enregistrées pour les actualités cinématographiques.
Mr. J. Clark Sellers speaks. The evidence is unmistakable.
Cette preuve est irréfutable. Monsieur Hopman aurait très bien pu signer chacune de ces lettres de rançon. Il est pour moi tout à fait convaincant qu'il les a écrites.
Dr. Schulhofer, born in Germany.
À mon avis, il est incontestable que les 15 lettres de rançon ont été écrites par un homme élevé et instruit en Allemagne. Et que cet homme est Bruno Richard Hopman.
Alors, au tour de l'accusé de venir à la barre. Hopman l'assure. Il est victime d'une machination policière. Les tests d'écriture sur lesquels se base l'accusation pour établir des concordances entre son graphisme et le sien ont été falsifiés. Les policiers m'ont battu et forcé à faire des fautes sous la dictée, affirme-t-il. Mais comment expliquer que des fautes similaires parsèment aussi les registres où il tient ses comptes ? Hopman reste silencieux. La messe est dite. À l'extérieur du palais de justice, la foule crie « À mort, Hopman !» Le 13 février 1935, le verdict tombe. Bruno Richard Hopman écope de la peine capitale. Son avocat s'insurge, dénonçant une agitation médiatique qui n'a pas permis au jury de juger équitablement son client. Il fait donc appel, mais il est rejeté par la cour le 9 octobre. Hopman n'a plus qu'à se préparer à mourir. À moins qu'il ne trouve un soutien inattendu. 16 octobre 1935, le gouverneur du New Jersey, Harold Hopman, se présente dans le couloir de la mort. Il vient rendre visite au condamné dans sa cellule. Car il en est persuadé. Toute la lumière n'a pas été faite sur l'affaire du bébé Lindbergh. Si Hopman est coupable, ce dont le gouverneur doute, il n'a pas pu agir seul. Alors, l'homme politique accorde plusieurs sursis au condamné, espérant la révision de son procès. Mais c'est un tollé dans les médias qui découvre qu'un ami du gouverneur, détective privé, a fait enlever un pauvre sbire pour lui extorquer des aveux concernant le meurtre du bébé Lindbergh. Alors cette fois, ça suffit. Hopman doit mourir. À moins qu'il ne passe aux aveux, ou qu'il ne dénonce ses complices, ce qui pourrait commuer sa peine en enfermement perpétuel. Une autre forme de mort. Mais devant la barbarie absolue de la chaise électrique, il y a de quoi hésiter. Or, Hopman refuse. Rien ne lui fera dire qu'il n'est pas innocent. Pas même la promesse de 75 000 dollars offerte à sa femme par un journal en échange d'une confession exclusive. Et le 3 avril 1936...
Flash.
Bruno Hopman a été électrocuté à 20h47 et 30 secondes ce soir. Sans dire un mot et avec un sourire mélancolique. Bruno Richard Hopman, condamné pour le meurtre du bébé Lindbergh, est mort sur la chaise électrique en présence de 52 témoins.
Hopman a été exécuté. C'est depuis l'Angleterre que les Lindbergh apprennent la nouvelle, car ils ont fui les États-Unis et la médiatisation qui, selon eux, ils en sont persuadés, a engendré l'enlèvement de leur fils. L'affaire du bébé Lindbergh continuera cependant de passionner la presse et de hanter l'Amérique. Aujourd'hui, certains défendent la thèse de l'innocence d'Hopman. Il aurait servi de bouc émissaire dans un contexte où trouver un coupable au meurtre du bébé le plus célèbre du monde était une exigence nationale. Mais près de 100 ans après le crime, qui peut savoir ?
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'enlèvement et surtout le meurtre du bébé Lindbergh, nous en parlons avec notre invité Romain Huret. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes déjà venu dans Affaires Sensibles, parce que vous êtes spécialiste des États-Unis au XXe siècle et que ça nous intéresse. Vous êtes président et directeur d'études à l'EHE2S. Moi je dis E2S, on dit ESS, comment on dit ?
EHESS.
Ouais, bon.
C'est dur.
Moi c'est pas très beau, ESS. Bon, votre dernier ouvrage en date paru aux éditions La Découverte concerne autre chose, et on en dira un mot. Ça concerne le célibat aux USA. Peut-être ailleurs d'ailleurs. Son titre, Les oubliés de la Saint-Valentin. On revient à notre sujet. Vous n'êtes pas enquêteur, vous n'êtes pas policier, vous êtes historien. Je vous pose quand même la question, d'un point de vue personnel, est-ce que Hopman vous semble coupable ?
Probablement coupable. Moi, j'ai pour coutume de dire que la justice fait bien son travail et donc elle a condamné l'homme qui est sans doute coupable de l'enlèvement. Il a peut-être eu des complices, il y a peut-être eu il y a beaucoup de théories, on en reparlera peut-être.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Alors, il y a eu plusieurs théories, comme toutes les grandes affaires aux États-Unis, ont enquêté et ont cherché des possible coupable jusqu'à Lindbergh lui-même, hein, qu'on a accusé d'être peut-être à l'origine.
Vous pouvez bien le dire parce qu'on ne l'avait pas dit, on ne peut pas tout dire.
Vous ne pouviez pas tout dire, de l'enlèvement de son fils, hein, qu'il estimait être trop faible, hein, et on a insisté sur le parcours politique et intellectuel de Lindbergh, hein, qui était favorable aux théories eugénistes, hein, qui pensait que les meilleurs et les plus forts étaient seuls capables de diriger le monde et diriger le pays et de survivre, hein, dans un monde qui ressemble à une jungle, et donc certains ont insisté sur le fait que la fragilité physique du bébé aurait peut-être poussé son père à s'en débarrasser, donc une théorie odieuse, et beaucoup pensent que Hopman était peut-être trop bête pour avoir envisagé un tel enlèvement et de s'attaquer à une personnalité aussi célèbre que l'était alors Charles Lindbergh.
Alors, on dit souvent ça, les médias aggravent l'affaire. Non, les médias font leur travail. Mais alors là, particulièrement, les méthodes sont... les méthodes des médias, alors on donne de l'argent pour avoir des témoignages, enfin c'est l'explosion, c'est sans complexe. Hein.
Si on peut faire une comparaison, il faut le faire... pour comprendre les médias et le journaliste dans les années 30, il faut comparer avec Internet aujourd'hui. Je pense que tout est permis. Et donc chacun, chaque journal, chaque journaliste à la recherche du scoop, hein, les enjeux sont alors considérables.
Mais quand les Lindbergh disent justement, on a fui, on a quitté les États-Unis parce que, à notre avis, c'est la sphère médiatique qui a permis finalement l'enlèvement, qui a pu déboucher sur l'enlèvement de leur fils. Ils ont peut-être pas tort.
Ils ont probablement pas tort. On entre alors dans une période de la célébrité à outrance, hein, dans les années 20 et 30. On adore les stars, on adore les personnages atypiques, exceptionnels, et Lindbergh, un peu malgré lui, parce que c'est pas un acteur hollywoodien, c'est pas une star de la chanson, il ne va pas du tout chercher à être célèbre, mais il devient par son courage, et vous avez rappelé cet extraordinaire voyage, hein, il est avec cette capacité technique, hein, qui fait la marque de l'Amérique alors, hein, c'est la puissance de l'ingénierie américaine, et donc on voit en lui un enfant parfait de l'Amérique, et lui-même aime, malgré tout, malgré les critiques qu'il fera, il aime bien aussi cette mise en scène et le couple a su en jouer également, hein, pour parfaire leur célébrité.
On a coutume de dire que l'enlèvement du bébé Lindbergh est l'un des faits divers les plus médiatisés du XXe siècle. Vous pensez que c'est le cas ?
C'est un fait divers qui a laissé beaucoup de traces dans la culture populaire et dans l'histoire du monde. Il y a une jeune écrivaine qui s'appelle Agatha Christie, qui regarde, qui observe ça de très près et qui va en faire un des livres les plus célèbres au monde, hein, Le crime de l'Orient Express, hein, qui s'inspire directement de l'affaire Lindbergh. Donc tout est réuni, on a à la fois la beauté du couple, sa richesse, un enfant aussi, en bas âge, ce qui...
Transgression.
Transgression absolue, et un procès, une enquête qui va durer avec des soubresauts, et donc on a quelque chose qu'on pourrait comparer en France à l'affaire Grégory, hein, puisque là on a l'ensemble des éléments qui font que ce fait divers-là était destiné en quelque sorte à devenir l'un des plus célèbres au monde au XXe siècle.
Et on est dans le mode opératoire enlèvement, rançon, ça foisonne à ce moment-là. L'Amérique est en crise, besoin d'argent, on passe par n'importe quoi, y compris ça. Il y a beaucoup d'enlèvements et de demandes de rançon.
Oui, il y a beaucoup d'enlèvements alors, hein, et vous l'avez dit, hein, la crise économique explique cela. Hein, le développement aussi de la criminalité organisée, qui est très fort dans les années 20 et dans les années 30, et donc, dans une période de crise, avec des comportements illicites qui sont de plus en plus acceptés dans la population, hein, on va voir apparaître et se développer les enlèvements.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Romain Huré, une question là vraiment adaptée à l'historien que vous êtes. Cette affaire a eu des conséquences législatives. Après la mort du bébé Lindbergh, le Congrès américain a voté la Federal Kidnapping Act. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette loi, qu'on appelle aussi d'ailleurs loi Lindbergh, et de ses effets ?
Alors, la loi Lindbergh, elle précède, hein, l'enlèvement. Il y a eu des premières tentatives pour faire en sorte que les policiers puissent circuler d'un État à l'autre, hein, en raison du fédéralisme, le fait que chaque État reste autonome en matière de police. Hein, et on le voit bien que dans le cas d'un enlèvement, bah, les criminels peuvent circuler et donc il est difficile de limiter l'action de la police. Donc on va faire en sorte de voter une loi qui permettra les circulations entre les États. Et de manière plus générale, on va faire de ces criminels, hein, des ennemis publics numéro un, avec un homme qui s'appelle J. Edgar Hoover, à la tête du FBI, et qui va vouloir cibler ces gangsters. Hein, et donc, il faut purifier, nettoyer l'Amérique de ces gangsters qui sont pour beaucoup des immigrants.
Est-ce que ça a endigué la vague de kidnapping ?
Ça l'a endigué, puisqu'il va y avoir des actions qui vont permettre de mieux surveiller, et notamment les célébrités, les gens les plus riches, mais ça n'a pas endigué, puisqu'on a encore jusqu'à aujourd'hui des kidnappings. On en a eu en France aussi, des tristement célèbres. Il y en a dans tous les pays. Et la célébrité, l'enrichissement explique aussi ce mode d'action qui peut enrichir très vite des criminels.
Bien sûr. On va parler de l'enquête, au moins sur un point, la douleur des parents, quels qu'ils soient, qu'ils soient connus ou pas connus, est la même, évidemment, hein, quand son bébé est enlevé et en plus assassiné. Mais alors, Lindbergh dit aux policiers, non, vous, pour l'instant, vous ne vous en mêlez pas, je mène l'affaire tout seul et puis bon, on verra après. C'est courant, ça ? Il fallait s'appeler Lindbergh pour pouvoir faire ça ?
On imagine assez facilement, étant donné l'exploit qu'il a accompli, qu'il devait être contrôle fric, hein, qu'il devait vouloir tout contrôler. Et il vaut mieux, quand on traverse l'Amérique, pendant 33 heures dans un avion, tout contrôler. Et donc il va appliquer des méthodes qui lui ont réussi et il souhaite absolument tout vérifier, tout contrôler en pensant être supérieur aux enquêteurs, supérieur aux policiers. Et donc il a une intelligence qui lui permettra, lui, d'identifier le plus rapidement possible la personne qui a enlevé son enfant.
Et alors, quelle était la vie de Lindbergh après ce drame ?
Il devient
un deuxième enfant, parce qu'elle était enceinte, c'est ça ?
Tout à fait. Et il devient très célèbre pour totalement autre chose, c'est-à-dire qu'on est bien loin des affaires d'enlèvement, mais il va devenir un isolationniste farouche, et il va créer un mouvement qui s'appelle America First, qui va s'opposer à l'entrée en guerre des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, Et il va créer ce mouvement qui va devenir très très populaire. Il affichera ouvertement sa sympathie pour le régime nazi, et en estimant que les plus forts doivent l'emporter. Et ce mouvement America First continue à inspirer jusqu'à aujourd'hui, puisque Donald Trump s'en revendique en partie en expliquant que l'Amérique doit passer en premier et qu'elle doit se tenir à l'écart des affaires du monde, même si Trump ne tient pas toujours ses promesses en la matière.
Et quelle était la fin de la vie de Lindbergh ?
Il a sans cesse continué à avoir des activités plutôt dans l'aviation commerciale. Il a utilisé son savoir extraordinaire en matière de navigation, puisqu'il a réussi quelque chose que peu d'hommes ont réussi à faire de cette manière-là, dans ce type d'avion-là. Et donc tout au long de sa vie, il continuera à mettre son expertise dans le domaine de l'aviation au service du public, sachant que le personnage public sortira terriblement écorné par son soutien à l'America First et à l'isolationnisme et à l'extrême droite états-unienne.
On reste aux États-Unis, donc pour tout à fait autre chose, mais votre livre vient de sortir la semaine dernière, il s'appelle « Les oubliés de la Saint-Valentin ». Des vies à l'ombre du mariage. Et on nous parle de célibat à travers l'histoire et le destin de vieilles filles et de vieux garçons dont vous avez pu retrouver la trace aux États-Unis au XXe siècle. Vous appréhendez le célibat à l'aune de débats actuels autour des métamorphoses de la famille et des liens affectifs et amoureux avec lesquels elle résonne. Donc c'est quoi le célibat aujourd'hui et notamment aux États-Unis ?
Alors c'est intéressant parce qu'il n'y a jamais eu autant de célibataires définitifs, de célibataires âgés aux États-Unis qu'aujourd'hui.
Est-ce que c'est axé sur les célibataires âgés ?
Âgés, c'est axé sur les célibataires définitifs.
Les vieux garçons, les vieilles filles.
Les vieilles filles. Et aujourd'hui aux États-Unis, c'est un pays de célibataires avec des célibataires masculins qui présentent toujours les mêmes caractéristiques, plutôt pauvres, peu éduqués. Beaucoup votent Trump aujourd'hui, et des célibataires féminines qui sont plutôt éduquées et qu'on accuse souvent comme le vice-président Jill Evans d'être des vieilles filles à chat. Et donc je raconte la généalogie de tous ces stéréotypes et la vie de ces célibataires hommes et femmes au XXe siècle aux États-Unis.
Oui, parce que ça rompt avec les stéréotypes sur la solitude, la tristesse, l'incomplétude des célibataires.
Absolument, on voit qu'ils ont des vies pleines et particulièrement intéressantes.
Sauf quand ils partent en week-end avec des amis, ils prennent la chambre où il y a juste un lit, voire un lit de camp. C'est ça qui va bien quand on est célibataire. Merci infiniment Romain Muret.
Merci,
au revoir.
À vous.
C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le rapt du bébé Lindbergh, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. La technique aujourd'hui, il y avait Vincent Mézières.